bien sûr, des Gémeaux qui regardent en bas. Avoir la tête au ciel, c'est avoir un Jupiter de 9e maison qui commande au Mercure de la Vierge le mouvement vers le haut. Oui, alors maintenant, j'arrête ça. Cette partie-là est vite, elle suffit. Moi, je vais retoucher du doigt de ça beaucoup plus maintenant en détail ici. Qu'est-ce que c'est que la croix? Cette croix que j'ai mise là-haut, mais à laquelle j'ai ajouté tout de suite un tas de choses. Voilà la croix. Et la croix, c'est donc le principe de la croix, c'est simplement ça. C'est tout ce petit symbole-là, cet archétype-là, la croix. La croix. La croix. Qu'est-ce qu'elle représente, entre autres? Représentation. Mais elle représente. Ah, voilà. Ignorez-moi ce dessin-là maintenant, c'est seulement celui-ci. Vous voyez que ici, j'ai fait un carré avec une flèche portant dans ce sens. Là, j'ai fait un carré avec une flèche portant dans ce sens. Ça signifie qu'ils vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer et ils vont peut-être avoir une collision. En tout cas, le contact va avoir lieu. Et j'ai appelé ça le monde extérieur. Ça, c'est le monde extérieur à nous tous. C'est le monde que je vois dans ce champ, par exemple. C'est cette table, c'est cette lumière. Ça, c'est le monde extérieur. Et moi, c'est ça. Sur l'un des bras de ma croix, sur l'horizontale de ma croix, je suis jeté sur le monde extérieur. Jeté sur le monde extérieur. Et le monde extérieur est jeté sur moi. Et le résultat de ce contact va être en fonction même de la loi de la balance, qui est la loi de la croix, c'est-à-dire que je transformerai ça en une synthèse, ou bien je vais m'y casser. Tout contact avec le monde extérieur établit immédiatement une équation, si subtile qu'elle soit, où la croix qui fait le rapport entre toi et moi va jouer. Le toi ici peut être un caillou. Le toit peut être une brique, ça peut être une automobile, ça peut être un mur, ça peut être une personne, ça peut être un arbre, mais c'est le toit. T-O-I. Et il y a le moi qui est devant ça. Bien, je me cogne la tête contre un arbre, n'est-ce pas, je me fracasse la contre, ou au contraire, je m'appuie la contre et je sens la douceur de son haleine et enfin de sa personnalité. C'est quand même, c'est une autre façon d'établir un rapport avec un arbre, n'est-ce pas? Et le premier des rapports, c'est le rapport strictement et brutalement martien. C'est la première leçon que chacun de nous doit apprendre. Et le second rapport est déjà vénusien parce qu'il représente que la croix a fonctionné, c'est-à-dire la loi d'équilibre, la loi de l'équilibre entre toi et moi, et la part de toi en moi et la part de moi en toi, ça a joué bien suffisamment pour que vous ayez une certaine grâce, un certain charme face à l'arbre, et que l'arbre, vous l'envisagiez déjà maintenant sous un autre aspect que simplement la chose brutale qui serait ce qu'on appelle vulgairement la matière, et qu'il a une personnalité, et que vous avez une sorte d'attraction pour l'arbre, et que vous ne le sentez pas hostile à vous. Il y a des choses dans la nature, dans toute la nature extérieure, que chacun de nous, plus ou moins, estime, sans très bien savoir pourquoi, est hostile. Demandez-vous pourquoi il y a dans la nature des choses hostiles, ou qui semblent hostiles, ou alors qui vraiment fonctionnent positivement comme hostiles. Et il y en a d'autres au contraire qui sont nos complices. Il y a des choses dans la nature qui sont nos amis, tout naturellement. Ça, nous le savons par climat, de partie de ville, une ville vous plaît, une autre vous repousse, un milieu quelconque. Mais rien que la nature, telle montagne, ça vous perturbe. Une autre, au contraire, elle vous enchante, elle vous ouvre les ailes. Demandez-vous pourquoi. Il y a une raison à tout ça. Et c'est de nouveau une question de l'équation entre vous et cette montagne, vous et cette arbre, vous et cette pierre, vous et ce mur, vous et cette rue, vous et ce petit chemin, vous et cette eau, vous et cette mer, par exemple, l'océan. Il y a des gens qui ont une peur épouvantable de l'océan. Il y en a d'autres qui ont une peur épouvantable des montagnes. Je me rappelle, il y a une trentaine d'années, avoir fait venir un couple hollandais en Suisse qui n'avait jamais vu une montagne de leur vie. C'était plat comme une punaise, la Hollande, surtout le secteur où ils habitaient. Quand ils sont arrivés le matin et qu'ils ont vu de Lausanne les montagnes des Alpes françaises devant eux, ils n'ont pas dormi toute la nuit après. Tellement ça a été une secousse. Tellement ça a été un événement. Mais voilà, l'idée, évidemment, là, c'est qu'il y avait d'abord inadaptation, mais il y avait hostilité. J'ai connu le sentiment de l'hostilité de certaines choses à moi. Et non pas naturellement à moi, personnellement, c'est très rare que je personnalise mes expériences. J'ai eu le sentiment très net que certaines choses dans la nature sont carrément hostiles à l'humanité, à l'homme, à l'espèce. Et graduellement, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore fini l'exploration de ça, mais j'ai compris de plus en plus pourquoi c'était une question subjective de développement en moi face à tout l'éventail des objets extérieurs. Et alors cette équation entre la croix qui se fait entre... En fait, une croix, le couple, par exemple, la septième maison, c'est donc le couple en principe. Eh bien, mon Dieu, c'est quand même deux personnages qui peuvent très bien se buter le crâne l'un contre l'autre et se casser la tête l'un contre l'autre, purement physiquement, n'est-ce pas? C'est le contact et c'est tout de suite peut-être la collision par gaucherie. Mais en principe, la septième maison représente donc l'institution précisément de la balance qui est le prototype même de toute la notion, le principe de la croix, du fonctionnement de la croix. L'autre vient en soi, soit on va dans l'autre et l'on y va régulièrement par la giration de ces 12 maisons, là les unes dans les autres, et lentement se fait l'imbriquage, et lentement une part de moi devient une part de l'autre, une part de l'autre devient une part de moi. Et alors la sympathie, la compréhension, et puis la force qui vient d'une sorte d'union déjà commencée, et fait que nous sentons profondément que nous sommes vraiment dans le courant propre à la vie de l'espèce. Eh bien, si c'est vrai d'un homme à un homme, d'un homme à une femme, c'est aussi vrai vis-à-vis de tous les objets de la nature. Tous les objets de la nature. Vous devriez voir un jour arriver, et je suis sûr qu'il y a certains êtres qui, sans hallucination, le réussissent, pour leur parler à une pierre, comme si c'était une personne. À la pierre, à l'eau. À l'eau. Aux éléments. Et faire l'équation de la balance avec ça, entre vous et ça. Alors, je reviens à ce premier dessin. Voilà le monde extérieur qui vous fait face, et vous lui faites face. Et puis, vous êtes au fond, au milieu de tout ça. Vous, l'être en vous. Mais il est là, l'être en vous, voilà. Et si j'ai mis là le rouge, c'est pour marquer l'extrême limite où l'être est obligé maintenant de faire face à l'extérieur. Si j'ai mis ça sous cette forme de pointe comme ça, c'est pour vous rendre, parlons, le fait qu'ici, nous sommes tous jetés sur l'extérieur. Nous faisons face à l'extérieur. Le mystère de l'expression face et dos, mais il est là. Voici le dos, voici la face. Le mystère du masculin et du féminin, mais il est là. La face est masculine, le dos est féminin. Le mystère du dos et de la face des planètes, il est là. La planète a sa face, elle a son dos. Une planète, Mars, nous voyons Mars par sa face, mais nous ne voyons pas son dos. Le dos de Mars, c'est Jupiter qui le voit. Car Jupiter montre sa face au dos de Mars, et Mars nous montre sa face, et pas son dos. Et tout le mystère de la rétrogradation, du sens réel de la rétrogradation des planètes, la clé, elle est là. Quand la planète va rétrograde, elle nous tourne, elle nous donne son dos. Plus exactement, la rétrogradation de Mars, par exemple, c'est que la Terre C'est la Terre qui détermine ça. C'est la Terre qui tourne le dos à Mars. Et la rétrogradation de Mercure, c'est Mercure qui tourne le dos à la Terre. Et tout de suite, c'est le tourner du dos. On ne voit psychiquement, ce n'est plus la même attitude du principe vénusien par rapport à nous. Comme nous, Terre, nous ne sommes plus dans la même attitude vis-à-vis de Mars quand nous lui tournons le dos de manière à ce que Mars doit aller lui rétrograde. Il y a là un lâchage de rapport de croix. Mais tout ça m'entraînerait beaucoup trop loin. Ici, c'est le monde intérieur de chacun de nous. Côte de Foix, dans les années où j'étais à Paris, j'ai souligné le fait que nous sommes dans une situation très spéciale. L'être humain, il est là, le jambon dans un sandwich, dont une des tranches fait face au monde extérieur et l'autre tranche le fait face au monde intérieur. On est pris ici au centre, entre un monde intérieur qui, lui, à son tour, se jette sur nous, vers lequel nous allons éperdument lorsque celui-ci nous pèse, ou nous paraît hostile, ou nous fait du mal, nous retournons vers le monde intérieur immédiatement. Mais normalement, nous sommes sollicités par le monde extérieur, nous avons l'appétit aussi, et c'est bien la mission de l'individu, précisément et surtout dans les maisons sous l'horizon, de se porter vers l'extérieur à lui et non pas à l'intérieur à lui. Car l'intérieur de lui-même, c'est par les maisons sur l'horizon qu'il va les trouver. Et tout ce monde que j'ai peint en bleu ici, c'est le monde en réalité qui vraiment devient vraiment la dominance finale des maisons sur l'horizon. Tandis que tout ce qui est rouge ici, c'est la dominance finale de ce qui est sous l'horizon. Le but de l'un, c'est d'aller à l'extrême de l'extérieur. Le but de l'autre, le bleu, c'est d'aller à l'extrême de l'intérieur. Voilà. Et alors, maintenant vous allez vous dire, avez-vous jamais pensé à ça? Oh, il y en a qui l'ont pensé. Alors vous vous dites, je suis un être. Vous ne spécifiez pas. Vous n'en faites pas l'inventaire. Je suis un être. Je suis quoi? Je suis. Et ce n'est pas je suis des jambes, un bras, une tête, un torse, des yeux, des sens. Non, non, je suis. Simplement, je suis. Je suis. Il y a quelque chose au fond de soi qui simplement est la synthèse de tout et qui dit je suis. Eh bien, après tout, vous n'êtes-vous jamais demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a un monde extérieur à vous? Que vous sentiez un monde à l'intérieur de vous? Oui. Que vous sentiez, oui, vous sentez un monde à l'intérieur de vous, vous l'appelez ça votre âme. Mais qu'est-ce que c'est ce monde extérieur? Il est là. Il s'impose à vous, comme vous vous imposez à lui. Pourquoi vous imposez-vous au monde extérieur? Pourquoi le cherchez-vous? Pourquoi butez-vous contre lui? Pourquoi n'avez-vous pas le champ libre devant vous? Dans une sorte de, comment dirais-je, je n'ose pas employer le mot vide, il n'a pas de sens, mais enfin dans une espèce de non-résistance générale, fondamentale, qui vous permet d'aller tout simplement affirmer votre solipsisme, votre caractère unique, votre individu, quoi, votre être, quoi, simplement, en avant. Mais non, jamais, jamais, tout de suite, pas plutôt que vous bougez devant vous, halte, stop. Et alors là, il faut négocier avec l'autre, ce qui est devant vous, le négocier. Vous êtes celui qui fabrique ça, le céramiste, l'artisan qui fabrique ça. Mais vous pensez, il a dû négocier avec la glaise, il a dû négocier avec le feu, avec la température, avec le vernis, avec la pesanteur. Il a dû faire un tas de choses. Parce qu'il n'a pas soufflé dessus pour le faire. Voilà le jeu de l'objet. Puis en même temps, ça l'a intéressé de le faire. Il a développé il a exprimé là un certain goût, une certaine facilité, un certain talent. C'est tout à fait ici le Vénus, la Vénus du taureau, n'est-ce pas? Qui, elle, a toujours besoin d'une expression sensorielle et un contact, un toucher sensoriel avec les choses. Elle arrive à faire avec le Gémeaux, ça. Bon, alors, bien, alors, voilà le monde extérieur. Pourquoi est-il là? La question est formidable, vous vous en doutez. Et elle est tellement formidable qu'elle est complexe. On ne peut pas lui donner une réponse. Si on lui trouve une réponse, on ne peut pas lui donner une réponse simple. La réponse est aussi par hiérarchie de signification. Je vous en donne une ce soir. Le monde extérieur n'est là que pour vous permettre de prendre conscience que vous êtes vous-même là. S'il n'y avait pas le monde extérieur, s'il n'y avait que l'être et son âme, vous n'auriez conscience de rien. De rien. Vous sauriez sans être conscient que vous êtes. Vous sauriez, mais vous ne sauriez pas que vous êtes. C'est grâce à l'existence d'un monde objectif à vous, vous, sujet. C'est grâce à ce monde objectif que vous prenez conscience que vous êtes. Pourquoi? Parce que ce monde objectif a cette vertu magique de vous renvoyer sur vous-même. Et de nouveau, la loi de la croix, si vous ne savez pas. Voilà le monde objectif. Voilà, il est là, le monde objectif, il est là et vous êtes là. Là, pourquoi est-ce que vous ne filez pas? C'est un autre parallèle, n'est-ce pas, dont je parlais en automne. Filez à terme de vie. Et alors, vous n'avez jamais conscience de rien. Vous êtes, mais sans conscience. Mais non, cet objet va vous imposer le retour sur vous-même. Vous entendez? Et alors vous allez passer de là, tout à coup, une fois là, à un certain degré là, crac, vous êtes bien obligé d'aller ici pour trouver là un point équivalent à ce point-là, de nouveau la balance, entre le monde intérieur et le monde extérieur, par le centre des deux, qui est vous-même, toujours vous-même, et au moment où vous arrivez exactement ici, sur la ligne d'équilibre avec l'objet qui ici vous a refoulé sur vous-même, vous dites, Eureka, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais pu voir si je n'étais pas revenu là, parce qu'ici, je sais, mais tout à coup ici, je sais pourquoi je sais. Ici, je sais pourquoi je sais. Mais tant que vous n'avez pas fait ce mouvement semi-circulaire, vous ne savez pas tout ça. Vous regardez sans voir. Voir, regardez, c'est ça, et voir, c'est ça. Alors, quand vous êtes là, vous voyez ça. Quand vous êtes là, avec ça, vous regardez ça. Vous le regardez seulement. Mais vous ne le voyez que lorsque vous êtes là, dans votre monde intérieur, face à lui. Et le sens des grandes planètes va se trouver là. Il viendrait sur la signification d'Uranus la semaine prochaine. Mystère, l'une des raisons de ce qu'on présente les grandes planètes dans le monde intérieur de l'homme tient précisément à ce moment aussi. Voilà le plus grand des services que nous rend le monde extérieur, l'objet devant nous. C'est qu'il nous impose et nous donne le moyen, lui seul, de faire ce mouvement en retour qui donc est donc le cycle qui est, on va partir comme ça. Et puis vous revenez, et nous le faisons tous les jours, 100 fois. Et c'est toute une opération mentale que l'on fait aussi. Mais ça se fait sur tous les plans de l'organisme aussi, et sur tous les plans du psychisme. Eh bien, ça s'est fait précisément pour prendre conscience de nous-mêmes. Et cette conscience de nous-mêmes marque bien ce qu'on appelle notre incarnation, le côté masculin et positif de nous-mêmes, et cette conscience de soi, qui est en somme la seule chose que nous pouvons dire à notre individualité. Voilà, ça est dit. Passons. J'enlève ça. Donc le monde extérieur est fait pour vous permettre de retourner dans le monde intérieur dans lequel vous ne retournez. Et on peut le réciter. Alors, je vais compléter cette conférence, c'est logique, car nous sommes maintenant, nous avons commencé il y a exactement 1h30. J'espère que vous pouvez voir. Alors, voilà le monde extérieur, il est là. Le pont rouge, la ligne rouge qui est là, c'est moi, face à mon extérieur. Et cette ligne rouge marque ici la frontière du conscient. C'est le conscient. C'est le conscient. Le conscient en nous, c'est un épiderme de notre être qui n'existe que parce qu'il y a un monde extérieur à lui et qu'il faut bien se protéger par un épiderme de ce monde extérieur à lui. Il faut s'en protéger. C'est notre peau. Le conscient, c'est notre peau. Mais derrière notre peau, il y a les capillaires, il y a l'endoderme, qu'est-ce que je sais encore, tous les termes de là, et il y a le sang. Et il y a tout le monde qui fabrique le sang. Et tout ça finit, la peau protège la fabrication dans l'intérieur des organes, mais d'autre part, les organes donnent à la peau une distribution de qualité, de substance, qui permettent à la peau de se maintenir toujours à un certain équilibre, à une certaine tension, une certaine pression, de manière à ce qu'elle ne laisse pas le monde extérieur percer, entrer en elle. Sauf dans un coup de couteau, par exemple, dans une piqûre, etc., etc. Alors, voilà le monde conscient, il est là. Ici, j'ai mis la ligne jaune. La ligne jaune, ou plutôt, oui, elle est plutôt rose pâle, représente le monde du subconscient, qui n'est pas le monde de l'inconscient. C'est le subconscient. Ça, on l'appelle subconscient, mon Dieu, parce que, évidemment, on n'en est pas conscient tous les jours. Mais de temps en temps, on en devient conscient. Et beaucoup de gens confondent le subconscient et l'inconscient. Et par surcroît, ils confondent encore ça avec l'inconscient collectif. Or, nous ne ferons jamais de l'astrologie. Voilà, mais c'est bien la raison pour laquelle j'en parle ce soir, en rapport avec cette conférence sur le rôle de l'individu sous l'horizon. Nous ne ferons jamais de l'astrologie valable sans avoir très clairement dans l'esprit des propositions structurales de la psyché humaine, depuis le moi, avec son expression la plus formelle qui est le corps humain, et tous les autres étages du moi à l'intérieur de celui-ci, qui vont maintenant alors jusqu'à le subconscient, à l'inconscient personnel qui est là, c'est l'inconscient personnel à la ligne blanche, et alors ici c'est l'inconscient collectif, tout ce qui est bleu c'est l'inconscient collectif. Eh bien, l'inconscient, alors, vous voyez que si vous avez vu un accident dans la rue, qui a été un choc terrible, pas vous qui étiez engagé, vous aviez été seulement spectateur, vous savez très bien que bien souvent, quelques jours après, plusieurs fois à la suite, vous aurez un horrible cauchemar, l'accident se reproduit devant vos yeux, etc., et vous repassez par le choc. La raison de cela, c'est que, naturellement, vous n'avez pas pu absorber immédiatement le spectacle, la situation, vous ne l'avez pas absorbé sur le plan mental, enfin, c'est le plan de Mercure, incidemment. Voilà le plan de Mercure, c'est cette ligne rouge. Le plan qui va de Mercure, c'est-à-dire du conscient, à la fin de l'inconscient personnel, c'est le soleil lui-même. C'est le soleil lui-même. Le soleil est la limite, une part par Mercure, entre le conscient et le monde extérieur. Car quand vous êtes conscient devant le monde extérieur, d'abord. Et incidemment, je dois dire qu'une autre valeur énorme du monde extérieur est qu'elle nous impose par la sève, par la discipline de l'appréhender proprement, de l'appréhender par la loi même de la croix, c'est qu'elle nous impose une optique, Mercure, une optique du conscient, qui va maintenant dans le mouvement en retour sur l'arrière, c'est-à-dire sur le monde intérieur, permettre une lucidité d'abordage du monde intérieur qui va être due à la lucidité et à la peine que vous êtes donné à aborder lucidement le monde extérieur. Qui veut aborder le monde intérieur sans avoir une discipline objective par l'objectivité du monde extérieur va bafouiller. Il va être dans le rêve, il va faire des châteaux en Espagne, il va se croire en contact avec des princesses d'autres planètes, C'est ce qui arrive, n'est-ce pas? Il va se croire en contact avec des divinités spéciales d'autres univers. Il va traduire ainsi certaines expériences qu'il fait à l'intérieur de lui-même. Il n'aura jamais compris ce qui se passe parce qu'il n'aura jamais accepté le monde extérieur. Qui ne peut pas accepter le monde extérieur face à face et à égalité, ne peut pas assimiler et comprendre son monde intérieur. C'est une loi fondamentale d'équilibre. Vous êtes cette croix. Vous êtes ce centre de la croix. Vous n'échappez pas à votre position cosmique qui est celle-là, absolument à cheval entre un monde extérieur et un monde intérieur. Et vous avez à faire la part des deux. Et toute notre vie n'est pas autre chose que faire la part des deux tour à tour, typiquement. Alors, le domaine qui a été le domaine royal de l'école freudienne, l'école de la psychanalyse, c'est précisément lorsque l'événement vous a blessé, le conscient, le mercure, eh bien, il entre en vous jusqu'à l'inconscient, jusqu'au subconscient. Il reste en vous comme, mon Dieu, une épine que vous êtes laissé entrer dans la peau, elle restera en vous pendant des jours. Puis finalement, votre corps le travail de réaction de l'organisme va finir par chasser cette épine. Elle finira par sortir. Et pourquoi? Donc, le cauchemar qui vient ici, c'est tout simplement que le soleil, qui représente ici le monde de votre âme personnelle, n'est-ce pas, de votre inconscient personnel, il va simplement dire, j'en ai assez. Alors, allons, sors. Or, comme rien ne peut sortir par là, il faut que ça sorte par là. Alors, vous avez le cauchemar et la répétition du drame que vous avez eu. Jusqu'au moment où vous l'ayez vraiment assimilé, en le renvoyant, et en le renvoyant, et en le renvoyant sortir de vous, que finalement vous dites, bon, maintenant j'ai tout compris, et tout ce que ça va être à m'apprendre, j'ai réagi maintenant à tout ça, d'une telle façon que mon dispositif intérieur n'a plus besoin de réagir encore, c'est-à-dire d'avoir la répétition du cauchemar. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà tout. Alors la psychanalyse freudienne insistait théoriquement que ça, sa conception de l'homme, que l'homme n'allait pas, que le subconscient, c'était la limite de l'homme, et que tous les rêves de l'homme venaient précisément de choses qui étaient arrivées du dehors ou dedans, et il n'avait jamais pensé, et c'est Jung qui est venu d'abord la grande idée, mais non, il y a une chose qui vient d'ici, là, qui vient de l'inconscient collectif, qui monte dans l'inconscient personnel, et qui, alors, elle finit par déborder dans le conscient. Alors, ça, ce sont les rêves d'archétype. Les rêves révélateurs, les rêves d'invention, les rêves d'inspiration, les visitations du monde de l'inconscient collectif, qui alors passant carrément à travers le monde de l'inconscient personnel, débouche tout à coup ici, et alors vous avez un mercure inspiré. Inspiré. Alors vous voyez la réaction. D'une part, vous pouvez avoir ceci. Vous êtes attaqué du dehors. Vous êtes blessé. Vous êtes blessé. C'est entré dans la psyché. C'est entré sous le conscient. C'est resté sous le conscient. Le conscient n'en a pas pu faire le digérer tout de suite. C'est resté là. Et ça reste. Et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et d'autre part, le collectif qui est là, l'heure a sonné pour lui de vous apporter quelque chose. Parce que c'est le sang de votre âme qui est le collectif derrière votre personnalité, ne montez pas toujours à la surface, mais qu'est-ce que vous seriez? Vous ne seriez qu'un fantôme, vous ne seriez rien, vous seriez exempt, n'est-ce pas? Mais alors, de temps en temps, quelque chose décide de monter, ce sont les aspects astrologiques des grands astres, décide de monter, c'est une certaine conjonction, et bien alors à ce moment-là, elle dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui me barre la route? Moi je veux monter jusque-là, et je ne veux pas vivre cette chose-là. Alors c'est le collectif, ici. Ce sera ici Jupiter, par exemple, ou alors ce sera certainement Uranus, qui tout à coup arrivera là-dedans et dira à cette espèce de poche de ruminant, dira, allons, pars. Alors tout à coup, un cauchemar formidable et une salade de cauchemars, parce que c'est tout à coup le collectif qui a dit, écoute, mon petit, j'en ai assez de pouvoir te maintenir dans cette situation pathologique, fous-moi ça à la porte. Et je te donne, et c'est moi qui fais le coup de bélier là-dedans. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. C'est comme ça qu'opèrent les grands arts. dans notre tête. Elles sont tous dans le bleu. Elles sont tous dans cette région de l'inconscient collectif. Et c'est précisément la fonction de certaines des maisons sur l'horizon. Qui le transpose tout de suite sur l'horizontale de la croix. Mais c'est toujours le jeu, par analogie de l'intérieur et de l'extérieur, toujours image l'un de l'autre. Qui fait des grands voyages physiquement est prêt à faire des très grands voyages mentalement. Il y a un rapport aussi là. Et qui n'en peut pas faire mentalement n'est pas prêt à en faire physiquement non plus. Alors voyez pourquoi j'ai mis ici Neptune, là au fond. Il est là le Neptune de notre terre. Il marque la fin de la mer divine, précisément le foyer de la mer divine au fond de chacun de nous dans le collectif, dans l'inconscient collectif de nous-mêmes, et qui nous envoie alors périodiquement son don, qui est son enfant divin, l'enfant divin qui nous envoie au soleil, mais toujours pour que ça passe finalement à Mercure, qui est vraiment le soleil lui-même. Quand il est en face du monde extérieur, c'est Mercure. Quand il est en face du monde extérieur, le soleil, c'est Mercure, c'est le soleil. Voyons maintenant si j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire là-dessus ce soir. Vous imaginez bien l'immensité du sujet, n'est-ce pas? L'immensité du sujet, et au fond, que je n'ai fait qu'en aborder les différentes préfaces, chacune demande un chapitre en soi. Je serais tout prêt, je désirerais beaucoup dans les leçons de cette semaine prochaine, ces 15 jours, pouvoir fouiller ça un peu plus près. Je vais finir ce soir maintenant, c'est l'heure d'ailleurs, sur une pensée finale. Donc, la semaine prochaine, ce sera le Neptune et l'Uranus que je m'en vais prendre dans leur jeu sur votre terre. Deux puissances du monde de l'inconscient collectif. Sauf qu'elles se représentent l'une face à l'autre et ce que chacune d'elles doit faire spécifiquement, chacune d'elles spécifiquement, sur vos astres, à mesure que toutes les deux procèdent le long du centre de la croix autour du thème. Ce sera ça. Et pour finir maintenant, derrière toute l'astrologie, il y a une proposition fondamentale. C'est la proposition qui nous est donnée dans l'Évangile. Quand Jésus dit, Père, et que ses disciples sont autour de lui, et qu'il dit, pour qu'eux l'entendent le dire, Père, je prie pour qu'ils soient en moi comme je suis en toi, et que tu sois en eux comme tu es en moi. Cela, qui pourra comprendre ce petit de particules en et en? Comment est-ce qu'on peut être dans quelque chose d'autre que soi-même, et surtout de quelque chose de plus grand que soi-même? Et comment ce quelque chose d'autre plus grand que soi-même peut être en vous, et pourtant ne pas être entièrement vous? C'est le mystère et le paradoxe de la vie. Pour l'intelligence, c'est le paradoxe, parce qu'il y a là, naturellement, une division de propositions. Ils refusent de s'identifier en une seule proposition. Tout le mystère de l'astrologie, toute l'astrologie n'est pas autre chose que l'effort magistral, grandiose, qui se fait depuis quelques années dans l'espèce humaine, qui reprend quelque chose que l'espèce humaine a connu dans les profondeurs de son âme, dans les acquisitions de millénaires passés très lointains. C'est une puissance qui revient et dont le but final n'est pas autre chose que de structurer et de prendre possession consciemment de l'opération par laquelle le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi. Plus exactement, supprimons l'idée du Père qui n'est pas suffisante. Prenons l'idée, l'être est en mon être et mon être est dans l'être suprême. Le un suprême est dans le un que je suis Le un que je suis est dans le un suprême. Maintenant, ça, c'est une proposition placée comme ça, qui est rigoureusement mystique. L'astrologie étant avant tout chose uranienne, va en prendre les éléments dans l'opération même de la fonction mystique qui est là, et elle va désarticuler ça là, pour permettre de l'articuler à nouveau, pour en prendre conscience. L'astrologie n'est que la prise de conscience mercurienne de cette parole de Jésus. Et si l'astrologie n'est pas ça, elle n'est rien du tout. Et sa puissance, parce que pourquoi elle travaille, pourquoi elle réussit, pourquoi elle nous saisit en profondeur dans nos entrailles, c'est parce qu'elle est l'évangile central de cette prière de Jésus. Vous en voulez une preuve? Voilà, un cercle. C'est le cône, c'est toujours le cône. C'est toujours le cône. Et voilà, de nouveau le cercle. Alors vous voyez ici, vous avez, je mets ça ainsi, et vous voyez tout de suite que vous avez Neptune. Alors Neptune est indispensable dans cette opération. Et c'est pour ça qu'elle est la planète du mysticisme. Elle est indispensable. Et pourquoi? Parce que maintenant, voilà votre soleil à vous. Il est là maintenant. Il est monté là. Sur le cône, il est monté. Et voilà son axe de montée. Ici, c'est l'être. En total. Ici, ce sont les êtres. La présence de ceci est ici, par l'axe central. La totalité de ça n'est pas là, mais la présence de ça est là. Et c'est là l'union du Père et du Fils. Vous devez l'avoir en géométrie du corps. Vous saisirez intellectuellement la relation du Père et du Fils. Mais qui assure la présence du Fils ici? C'est la Mère divine, qui est en bleu. Parce que c'est elle qui prend ceci qui est là et le descend à ce qui est là. Et la descendante du Fils, c'est son enfant, c'est son Fils, c'est Jésus-Christ. D'où là, vous avez la Mère divine et son Fils, qui est unique celui-là, parce que celui-là vient de son mariage avec l'entier qui est là. Et ceci n'est même pas l'entier maintenant. Et ceci est une part, et ceci est une autre part, mais ce n'est pas l'entier. Seulement, c'est cet entier, c'est cette finale, c'est l'entier par rapport à ses parts. Mais du moment que c'est l'entier par rapport à ses parts, tenez-vous bien, c'est aussi la part d'un plus grand entier, puisque la somme des, puisque l'entier, c'est toujours plus que la somme des parts. Par conséquent, ceci commence à être l'entier, s'annonce déjà comme le celui de l'entier supérieur, c'est-à-dire du Dieu absolu, du Dieu absolument non manifeste, du Dieu indescriptible, du Dieu innommable. Et alors, représentant le Dieu innommable, il représente cette force qui descendra s'unir à ce cercle ici, qui va descendre ici, et le mariage de cet entier à cette part, qui est la Sainte Vierge, va représenter l'enfant qui descendra à nous et qui est notre sauveur. Est-ce que je me fais comprendre? C'est sommaire, c'est très sommaire, c'est très bref, mais est-ce que je me fais comprendre déjà comme ça? Oui, pour les astrologues ici, certainement. Alors vous comprenez? Toute la proposition d'astrologie est là. Parce que tout ce qu'il y a dans un thème, en réalité, derrière tous les degrés, les aspects, les symbolismes, les signes, les éléments, les aspects, les maisons, et c'est ça qui est en jeu. C'est que ça qui est en jeu. C'est des infiniment innombrables facettes de ça qui est en jeu. Donc vous voyez que l'astrologie, c'est la grammaire essentielle, la connaissance de la et là-dessus, je finis ce soir. Je rappelle un instant ici que nous parlons des maisons de la croix humaine, donc du thème de l'horoscope humain. Nous parlons des maisons qui vont du bélier à la balance en passant par le cancer, qui sont sous l'horizon. Étant donné que la quatrième maison représente le nadir, comme la dixième représente le zénith, puisque d'ailleurs le soleil passe à... Nous sommes tous membres de la Terre, et le rapport que nous avons avec l'âme de la Terre est le sujet d'une conférence en soi. Vous pouvez bien deviner ça. Si là, la Terre n'avait pas une âme, nous ne serions pas là et nous n'aurions rien à quoi nous raccrocher. Notre âme se raccroche et se lie à l'âme de la Terre. Et c'est l'économie de tout le système terrestre doit se déchiffrer et se défricher là. Mais maintenant, pour un instant, plaçons-nous à la position de la Terre face au Soleil. Ou plus exactement, plaçons-nous à la place du Soleil face à la Terre. Vous voyez que la Terre est un satellite du Soleil, c'est une de ses planètes, c'est la troisième, qu'elle a son orbite autour de lui, et que nous sommes membres de ce satellite, et si vous voulez bien, pour l'instant, l'appeler cette sentinelle. La Terre est une sentinelle, d'ailleurs les planètes, certaines planètes surtout, sont des sentinelles pour le Soleil. La Terre, maintenant, je m'en vais la considérer pour un instant, indépendamment de toute autre planète, et vous montrer que l'extension qu'elle a par rapport au centre du Soleil représente sa position. Sa position est d'être, de marquer le terme d'un certain monde, le terme de l'extension d'une certaine puissance secrète du Soleil, le terme de l'extension d'une certaine puissance de l'âme même du Soleil, que c'est un des attributs de l'être solaire lui-même, héliocentré. Ah, je suis en ce moment-ci, alors dans l'ésotérisme des choses complètement, prenant l'astronomie de la situation uniquement pour précisément passer d'elle à l'intérieur d'elle. L'astrologie s'inquiète des organismes sidéraux et de leur charpente et de leur rapport. L'astronomie s'intéresse aux corps sidéraux. Nous, elle s'intéresse à la mécanique sidérale, à faire de position, de mouvement. L'astrologie, naturellement, se sert de tout ça, mais elle ne fait rien. Elle commence où l'astronomie s'arrête. Vous ne pouvez pas faire d'astrologie réelle sans une connaissance minimale, claire d'astronomie, mais vous ne pouvez pas faire de l'astrologie par l'astronomie. L'astrologie commence là où l'astronomie finit. Nous nous occupons d'organismes vivants et nous ne pouvons les connaître, et ils sont vivants, mais nous ne pouvons les connaître que par analogie à notre propre vie, à nous-mêmes. C'est toujours par analogie à nous-mêmes. Et c'est une des raisons pour laquelle la discipline, le cheminement de la pensée qui veut trouver la vérité doit être très surveillée. Parce que c'est une analogie à une chose tellement plus grande que nous, il s'agit d'approcher de cette chose plus grande que nous par la voie analogique. Mais mon Dieu, il faut y aller avec une sobriété, une austérité, une ascèse extraordinaire. Mais ici, je sais qu'on le sent bien. On le sait bien. Alors, la Terre, maintenant, placée où elle est, il est incontestable, pour des raisons que quelques-uns d'entre vous pressent et peut-être même savent, et que d'autres doivent apprendre, la position de la Terre dans l'économie du système solaire est une position très spéciale, en ce sens qu'elle est vraiment un appareil tout spécial de forteresse et de défense pour le Soleil. Et c'est une des raisons pour laquelle la vie sur la Terre n'est pas très rigolote. Ce n'est pas une des planètes les plus drôles dans laquelle vivre. Son rôle, sa fonction est une fonction tellement énorme dans le monde sidéral, dans l'être solaire et dans l'organisme solaire, c'est une fonction extrêmement stratégique, sur laquelle j'entrerai un jour, lorsque je serai sûr que je tiens un groupe avec lequel je peux filer dans ces données-là. Toujours est-il que, si vous voyez la Terre, Non, non, voilà. On va faire ça tous dans nos tableaux noirs, ça sera tout réglé. Si vous voyez, par exemple, ici le soleil, là, 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 mon Dieu, la Terre, elle est là, n'est-ce pas? Là, voilà. Là, voilà la Terre. Eh bien, vous voyez, j'évite de faire le ciel. Je vais marquer la croix. Je peux faire le ciel, pourquoi pas? Voilà. Alors, voilà la Terre. Alors, vous voyez, ici, voilà son orbite. Et alors, vous voyez tout de suite, l'horizon est là. Vous voyez, l'horizon est là. La Terre est une extension de l'être solaire, il va chercher quelque chose. L'être solaire va chercher quelque chose par la tribu solaire qui s'appelle la Terre. Par l'être de la Terre. Et nous sommes les êtres de la Terre. Alors, forcément, il va de soi que tout ce qui est ici, au-dessus, dans l'intérieur de l'écliptique, c'est-à-dire de l'orbite de la Terre autour du Soleil, est beaucoup plus solarisé que ce qui est en dehors ici. Qui alors est beaucoup moins solarisé, et qui dit moins solarisé, dit nécessairement plus lunarisé. C'est lunaire. La lune est la reine des nuits. La lune est la reine des nuits. Elle est la reine au nadir, qui est là. Là. Là, la marque, la pointe de la quatrième, c'est la puissance maximale de la reine des nuits. C'est donc de la lune. Et lorsque elle passe, ici, jusque-là, c'est-à-dire lorsqu'elle passe donc de la première à la septième maison, elle est nécessairement plus forte dans son influence que lorsqu'elle passe de la septième à la première. Parce qu'elle est entrée dans son domaine propre, elle est en charge de ses fonctions propres, de ses devoirs propres, et ses devoirs propres, c'est d'assurer perpétuellement un champ d'extension toujours plus grande à la mission que doit avoir notre âme clouée sur sa croix pour des raisons, entre autres, d'aller travailler dans le champ de la nuit, entre la première et la septième maison, qui est le champ de l'individu, alors qu'au-dessus de l'horizon, c'est tout de suite le champ du collectif auquel appartient l'individu. Voilà, première des choses. Par conséquent, incidemment, dans un thème, lorsque vous avez la lune radicale dans une maison sous l'horizon, vous pouvez tout de suite penser qu'elle est plus forte que si elle était, par exemple, disons, en neuvième. Regardez tout de suite que d'entre vous astrologues, vous allez tout de suite avoir la démonstration de ça, vous rappellerez ça dans des thèmes que vous avez eus, que, regardez la lune en neuf, quand vous prenez la lune en trois, et admettons maintenant naturellement, pour simplifier l'exposé, que c'est le zodiaque naturel, c'est-à-dire le Gémeaux pour la 3, le Sagittaire pour la 9. Eh bien, quand la Lune est en 3 et dans les Gémeaux, elle exerce une action périphérique, parce qu'elle est la périphérie du thème, elle est l'extrême limite de la frontière du monde sidéral solaire, dont elle est elle-même plein des piliers, elle en est l'extrême limite face à quoi ? Face à un abîme, disons le mot, un abîme dans le sens apocalyptique, si vous voulez, face à un certain chaos, si vous voulez, face en tout cas à un certain, certainement, prenons simplement le mot, désordre. Ce n'est pas pour rien que la Lune est là, ce n'est pas pour rien que la Terre est là. Il y a une question de croissance, il y a une question de politique, c'est une politique d'étoiles, c'est une politique de système étoilé, et que les fonctions qui sont sous l'horizon, qui sont donc les plus éloignées de la puissance solaire, sans être du tout détachées d'elle, mais c'est l'extrême point de l'action solaire, qui se sert alors de la Lune, et qui a voulu la Lune pour pouvoir s'en servir, afin d'assurer la croissance de la solarité proprement dite, de la substance même de l'âme de la Terre et donc de la nôtre. D'où la position actuellement la tendance à être périphérique, à être centrifuge de la Lune sous l'horizon, et de l'être beaucoup moins sur l'horizon, puisque déjà, là, elle rallie l'axe du Soleil à la Terre, et tend au contraire à stimuler le mouvement de montée, cette fois-ci au Soleil. C'est là le secret de toute l'importance des nœuds de la Lune. Les nœuds de la Lune, vous savez ce que c'est, et ceux qui ne savent pas l'astronomie sauront que tout de suite les nœuds de la Lune sont les noms que l'on donne, au l'endroit, au degré, où l'orbite de la Lune autour de la Terre coupe l'orbite de la Terre autour du Soleil, qu'on appelle donc l'écliptique. Quand le plan de l'écliptique est coupé par le plan de la Lune, et que c'est la Lune qui arrive de la nuit dans le jour, nous appelons ça le nœud ascendant. Et lorsque la Lune, après 14 jours, est en train de couper de nouveau le plan de l'écliptique avec son propre plan, avec sa propre orbite, et qu'elle s'en va, et qu'elle va redescendre maintenant dans la nuit, c'est-à-dire qu'elle va passer là, la Lune va passer là, eh bien, évidemment, il va de soi que ce nœud descendant représente le commencement d'une action qui ne se terminera qu'au nœud ascendant lorsqu'elle reviendra sur l'écliptique et qu'elle reconnaîtra en quelque sorte son intégration dans le plan au-delà, dans le plan des maisons au-delà, au-dessus de l'horizon. C'est tellement vrai que j'attire l'attention des astrologues ici sur une recherche très fructueuse de voir si les planètes du thème, dans leur majorité, sont entre le nœud ascendant et le nœud descendant, parce que s'ils sont entre, ça indiquera une certaine action de la Lune spécifique, tandis que si ces planètes sont entre le nœud descendant et le nœud ascendant, ça indiquera une autre action spécifique, parce que là, naturellement, les planètes qui sont sous le nœud descendant et qui vont être prises là par le jeu de la Lune tous les mois remontant au nœud ascendant, vont être soumis nécessairement à l'action de la Lune beaucoup plus fortement encore. Je reviens à à une démonstration de l'influence de la Lune en maison 9, c'est-à-dire en maison sur l'horizon, la maison la plus haute sur l'horizon, en vous montrant que la Lune en maison 9, si elle s'y trouve radicalement déjà, et quand elle y passe tous les mois, tend à faciliter, à vous attirer, si l'on veut, vers l'abstraction. La maison 9 est une maison d'abstraction. Je la prends naturellement psychologiquement, et je la prends surtout sur le plan psychologique de la mentalité, de l'intelligence. C'est la maison de la plus haute intelligence de l'homme, la 9e maison. C'est le mercure absolument transcendant de l'homme, le plus haut qu'il est capable. C'est la maison des idées générales, n'est-ce pas? Vous avez une mauvaise 9e maison, vous aurez des idées générales absolument des grenouilles, quoi. Les larves d'idées générales, vous n'en aurez pas vraiment. Ou alors vous aurez des espèces de monstres d'idées générales. Très important de savoir ce que vaut une 9e maison d'une personne quand cette personne vous aborde pour prendre un cours d'astrologie. Est-ce que ça vaut la peine de vous donner? Qu'est-ce que va être sa 9e maison, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que la Lune en 9, elle attire l'intelligence à une opération de 9e maison qui est une opération d'abstraction. Et en réalité, c'est une abstraction toujours relative, mais c'est une abstraction de ce qui a été l'objet d'une emprise formidable en 3. Tout l'horizon, la Lune vous fait ressortir par une action centrifuge et périphérique, puisqu'elle marque l'extrême limite de l'expérience humaine, en dehors du centre, en dehors et le plus loin possible du centre. Elle amène la force solaire là. Elle l'amène là, en 3, elle l'amène au dehors, et il est là devant un monde dans lequel, mon Dieu, le Mercure se sent un peu perdu. Enfin, il doit beaucoup travailler. Et forcément, alors là, dans la 3e maison, il ramasse, il combat, il joute. C'est une joute oratoire avec l'objet qui est devant lui. J'y viens tout à l'heure. C'est une joute oratoire dans la 3e maison. Mais ce n'est pas une joute oratoire en 9, parce qu'en 9e maison, tout à coup, si la Lune passant là va faciliter le travail de la 9e maison qui consiste à tirer, à extraire de tout le détail de la 3e maison des idées générales et des principes. Alors, la Lune travaille en 9 pour les principes. La Lune travaille en 3 pour stimuler en vous la recherche de la curiosité pure et simple. La curiosité de n'importe quoi. Tant que vous êtes curieux, c'est tout ce que la Lune demande, parce que c'est simple, c'est normal. Il faut que vous soyez curieux. Il faut que votre esprit s'aiguise et que rien ne lui soit indifférent. C'est une matière de 3e maison. Mais on ne peut pas rester simplement devant les choses, à les gober les unes après les autres en vitesse. Il faut quand même faire des synthèses de tout ça. Il faut que ça serve à quelque chose. Et la Lune en 9, elle nous aide à le montrer. Donc, vous voyez, la Lune en 9 joue un rôle très solaire. En 3, elle joue un rôle strictement lunaire. Si on peut dire strictement lunaire, parce que rien n'est vraiment découpé comme ça. Mais c'est la fonction d'une Lune de rentrer déjà dans le giron de l'orbite de la Terre autour du Soleil et sortie du giron propre à elle-même, qui est de mettre la Terre sous son règne à elle. Sous son règne à elle. Donc, je viens de vous parler des nœuds, je n'y reviendrai plus. Je parlais donc des planètes sous l'horizon, de la Lune sous l'horizon. Je n'y reviendrai plus. J'ai la Lune moi-même en deuxième maison et dans le Taureau. Et c'est une Lune évidemment sous l'horizon. Et c'est tout à fait autre chose que de l'avoir en 11 ou en 12 ou en 10. Tout à fait autre chose. Ah, non, pas seulement parce que c'est une autre maison et une autre fonction, mais parce qu'il y a encore cette disposition, cette structure mystérieuse de tout ce qui est sous l'horizon. Parce que c'est là le plus loin du Soleil. Et c'est le plus près de l'influence de la juridiction même de la Lune. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit pour les astrologues. Pour les astrologues, j'ai déjà tout dit. Ils peuvent courir avec ça. Ils n'y ont pas encore pensé, ils peuvent courir. Et je sais qu'il y en a beaucoup ici, comme moi, qui y ont pensé probablement, voilà, déjà des années, mais on nous dit ce qu'on a déjà su. On ne peut pas tout savoir à la fois. Ça vous revient plus tard. Ça vous est... Les idées, vous aviez probablement remarqué, certains d'entre vous, que dans l'astrologie surtout, les idées vous viennent en cycle. Et alors tout à coup, vous êtes obsédé par une certaine découverte que vous venez de faire, ou une certaine pensée que vous est venue, qui vous éclaire beaucoup, qui est très lumineuse pour vous, et puis vous vous dites, oh, mais ça c'est merveilleux. Alors vous poussez ça maintenant. Et alors vous le poussez un petit peu, puis au bout d'un moment, vous n'arrivez pas au terme de la chose. Vous êtes obligé de la lâcher parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est présenté sur un autre angle, n'est-ce pas? Et vous lâchez carrément le sujet. Mais vous ne le lâchez pas pour demain. Une progression particulièrement de peut-être une progression qui n'est pas trop grande, c'est peut-être non pas la progression de la Lune, parce qu'elle serait trop grande, trop petite, elle serait trop lente, mais ce serait peut-être le transit de Jupiter, le transit de Mars. En astrologie, je n'ai jamais été d'un seul trait de A à Z. Je suis allé de A à I, à H, arrêté net. Et pris tout d'un coup un nouveau A à H ailleurs. A à H ailleurs, et puis au bout d'un certain temps, tout d'un coup, le déclenchement se fait, je pars de H, je vais jusqu'à O. Et puis je fais de nouveau la même chose, puis je fais la même chose. Alors graduellement, comme ça, graduellement, ben mon Dieu, le cône de la pensée astrologique en moi se bâtit. Et en fond, je suis bien certain que si l'on s'analyse, c'est à peu près le cheminement de tout le monde, le cheminement de tous. Et donc, cette question des maisons sous l'horizon, je vous donne un exemple de ça tout de suite, quelque chose de concret, que je me propose d'ailleurs de reprendre en cours privé. Réfléchissez à la signification ésotérique de la Lune faisant carré Vénus. La Lune est devant. La Lune est devant. Quand je dis Lune carré Vénus, la Lune est devant. La Lune est devant. Elle est en ici. Vous la Vénus. Et la Lune est là. Donc la Lune fait carré à Vénus. Et alors, n'oubliez pas, et ça c'est tout un sujet de nouveau que la Lune par conséquent comme Vénus est beaucoup plus à l'intérieur du système de la croix du thème que Vénus est tout près du centre de la croix des 12 maisons, elle est tout près du centre de la croix des 12 maisons. J'y reviendrai une fois là-dessus lorsque je parlerai des planètes intérieures. Et ça, c'est un sujet énorme que je prendrais peut-être aussi, si j'ai un groupe assez labile, que je prendrais aussi peut-être un de ces soirs chez Mme Molly. Alors, remarquez que ici, c'est un mouvement où Vénus va à la périphérie du thème. Elle ne va pas à l'intérieur du thème. La Lune l'entraîne en périphérie. La Lune a une action ici centrifuge et non pas du tout centrifuge. Elle tente à étendre cette Vénus à la puissance. Est-ce que la Vénus contient à dérouler ça dans le sens périphérique, à l'extension limite de l'expérience humaine? Rien que ça vous donne une idée de la puissance de la Lune lorsqu'elle est sous l'horizon et de son action, justement, de l'action de la Lune sous l'horizon, et que la mission de l'individu se fait sentir sous l'horizon. Car sous l'horizon, nous avons le Bélier, Mars, nous avons la Vénus, le Taureau, Vénus, nous avons Gémeaux, Mercure, nous avons ensuite le petit Soleil, le petit Lion, le tout petit Lion, qui est le petit Soleil du thème, dans la, puisque c'est lui qui va grandir tout le temps, et que tout le thème est pour lui. Nous avons le Soleil, le Lion, là, dans la 5, et nous avons de nouveau le Mercure en 6. Vous voyez que ce n'est que les astres, le fameux trio dont j'ai parlé cet automne, le trio Soleil, Mercure, Vénus et puis Mars. Voilà. Mars qui joue ce rôle d'intermédiaire entre les planètes du collectif et les planètes de l'individuel. Ça, c'est la leçon de Mars de l'automne, je n'y reviens pas. Alors, vous voyez que vous avez le Mars du Bélier. Bon, je fais le Mars du Bélier, le voilà. Là, voilà le Mars du Bélier, il descend ici. Vous avez la Vénus ici, qui descend également ici. Vous avez le Mercure des Gémeaux, c'est le Mercure inversé, si je fais, il n'est pas droit, le Mercure des Gémeaux, il est inversé. Alors, ceux-ci regardent ici, sont bien obligés, ils doivent. Et quand la Lune, passant de l'ascendant, donc de l'horizon, descend ici, elle entraîne tout ça vers sa périphérie. Ça permet cette extension qui est vraiment le sens même, la possibilité même du développement de l'individu. C'est vous. C'est vous dont la Lune s'assure. Mais en même temps, cette extension peut être une opération coûteuse. Et cette opération, c'est une partie de l'opération générale, mais c'est comme c'est celle de l'individu. Or, pourquoi la fait-il, l'individu? Pourquoi est-ce qu'il est là à descendre, et la Lune lui dit, alors viens, mon petit, viens, sors-moi ce Mars, sors-le-moi, bouge-le, et bouge-le dans ma direction, et à Vénus, allons, en avant, dans ma direction, et au Mercure, dans ma direction, qui est face au désordre, face aux choses que l'intelligence doit d'abord enregistrer, et ensuite lire. Qu'est-ce que c'est que la troisième maison si c'est pas ça? Enregistrer d'abord, mais surtout ensuite lier. Alors, tout ça, c'est un problème. Et avouez que c'est une espèce de bataille, puisque très facilement, ça vous fatigue, ça vous donne des maux de tête. Et toujours, au moment où la Lune passe dans ces maisons-là, il y a une stimulation plus forte encore de cette opération de mois lunaire en mois lunaire. C'est le moment de sortir à un monde qui est ici, et un monde qui lui est relativement étranger, et que la Lune lui impose d'aborder. Alors l'individu ayant été obligé d'aborder un monde qui est non seulement au-delà de l'orbite de la Terre par rapport au Soleil, mais face à ce que j'appellerais maintenant un certain désordre relatif, et là, ici je le prends, on peut presque dire, cosmogoniquement, beaucoup plus qu'individuellement, encore que le thème individuel répète exactement la même opération, analogiquement, tout le temps. Eh bien, c'est ça qui est la mission de l'individu. Et maintenant, dans un instant, je m'en vais prendre cette mission de l'individu et la serrer de plus près. Donc, voyez-vous la différence? Si au contraire d'avoir ici Vénus, la Lune carré Vénus. J'ai la Lune ici. Vénus là. Cette fois-ci, c'est Vénus carré la Lune. Eh bien, expérimentalement, si vous fouillez ça de près, l'astrologie va vous donner un microscope électronique pour voir dans les thèmes. Si vous finissez pas par avoir une sorte de microscope électronique pour voir dans les thèmes, vous ne pouvez pas faire beaucoup d'astrologie, mais ce n'est pas vraiment une satisfaction profonde. Mais voilà, c'est Vénus carré la Lune. Eh bien, cette fois-ci, j'aime autant vous dire que Vénus est presque au cœur du thème, presque au centre de la croix, elle est sous l'horizon, d'accord, mais elle appelle la Lune, elle exige de la Lune quelque chose, c'est une puissance solaire, Vénus, elle exige de la Lune quelque chose, donc la Lune qui naturellement est à la limite du centrifuge centripète, tout d'un coup la voilà centripétée, la voilà rentrant dans le giron de l'être solaire par Vénus, la voilà qui monte de sa périphérie à l'intérieur du thème, elle s'intègre dans le thème. C'est tout à fait autre chose de l'avoir Vénus carré Lune que d'avoir la Lune carré Lune. Justement, ces soirs, j'ai envie de prendre ça parce que c'est même très rigolo d'en faire des démonstrations. Très rigolo. Les gens ont du mal entre Vénus et la Lune, alors ça va très bien. Et encore, pour rester sur ce sujet, et vous faire toucher les doigts le côté dramatique de la chose, car enfin c'est dramatique. Et si ce n'est pas, et si je ne le montre pas dramatiquement, ça ne vous restera pas aussi nettement dans l'esprit, que ça ne vous donnera pas l'impression que ça vaut vraiment la peine d'étudier des choses pareilles. Qui attire Mars, Vénus, Mercure, ici en bas, j'ai dit la Lune. Hein, la Lune. La Lune, Cancer, Hardy, carré, le Bélier. La Lune, Lion, carré, la Vénus, Taureau. La Lune, Vierge, allons, carré, Gémeaux. En avant la musique, en avant. C'est le mouvement Hardy, comme ça. Oui, mais alors, qui la sort? Eh bien, la balance, Vénus, la balance, sort la Lune de la quatrième maison, et en avant. La Vénus de la Balance a cette fonction suprême de ramener la Lune sur l'horizon. Et c'est voici tout ça maintenant au collectif. Et maintenant l'accent va être porté sur le jeu du collectif sur l'individu. Et l'insèrement, l'entrée et l'injection de l'individu dans le collectif. Il entre dans le giron du collectif. Il commence ce mouvement lorsque la Lune part dans la septième maison et qu'elle prend ce qui est en quatre, elle impose la montée. Elle maintenant va sortir de ce qui est sous l'horizon. Et alors, le Mars du Scorpion a cette fonction magistrale, c'est qu'il va lui prendre le lion, le soleil, et il va le faire lui.